Dans le collimateur, le balado de veille du Carrefour d'innovation et de pédagogie universitaire de l'Université du Québec à Montréal. Conversation sur la littératie de l'IA en éducation. Partie 2. Cet épisode s'inscrit en amont de la journée d'échange du 24 avril 2024, portant sur les opportunités pédagogiques de l'IA générative en enseignement supérieur.
Mon nom est Sandrine Promtep. Je suis professeure agrégée à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM.
Yves Mon, chargé de projet pédago-numérique pour le Carrefour d'innovation et de pédagogie universitaire.
Sirléa Rosin, chargée de projet pédago-numérique à l'UQAM, à l'École des sciences de la gestion.
Florence Sedaminou-Muratet, conseillère pédago-numérique et anthropologue pour Éductif Collecto.
Alors, nous voici. Nous retrouvons à nouveau dans un deuxième épisode. Ceux qui ont manqué le premier épisode pourront l'écouter s'ils veulent. Le fameux site Literacia, c'est un peu aussi pour ça que je vous rassemble. J'ai sorti quelques mots-clés là, venant du site. On parle ici de communauté d'intérêt, favoriser l'appropriation de l'IA par toute la communauté de l'enseignement supérieur et des acteurs de l'éducation. Donc, est-ce que ça serait un lieu, justement, une espèce de communauté, plus qu'inter-ordre, mais de l'éducation en francophonie, qu'on devrait mettre en place?
Mais moi, je vais te laisser, Sandrine, parce que t'es vraiment là dans les prémices du projet, là.
Oui, merci Florence. Mais clairement, Florence a collaboré dès le tout début du projet, donc elle est très humble. Mais si je fais un petit retour historique, ce projet a été soumis avant que ChatGPT n'arrive. Mmh. Donc nous avions fait la demande de financement en mai, on l'avait obtenu, pardon, en mai l'année d'avant. Donc imaginez, on était parti avec l'idée de créer une plateforme, donc un site web a priori, où nous pourrions déposer des outils qui justement permettent aux professeurs de s'approprier l'IA. Pour les professeurs qui souhaitaient se l'approprier, soit en termes de technologie, ou aussi en termes du type de contenu que ça pouvait leur amener ou de type d'avantage que ça pouvait leur amener dans leur propre discipline, dans l'enseignement. Donc, le fond autant que la forme. Et ChatGPT arrive, qu'est-ce qui se passe? Nous, notre outil d'IA qu'on avait choisi comme terrain d'instanciation, c'était les chatbots. On était vraiment en ligne, on ne pouvait pas l'avoir vu plus clairement que ça. Mais c'était malgré tout, je vous assure, un hasard, dans le sens où on voyait bien que tout ça s'en venait, sinon on n'aurait jamais fait cette demande-là. Mais en même temps, on n'avait pas idée à quel point ça allait arriver là. Parce qu'en fait, on s'entend que le ChatGPT 2.5, là, ça faisait longtemps qu'il avait essayé et que ça n'avait rien donné. Donc, on ne s'attendait pas à ce que ça revienne si rapidement à l'avant-scène. Donc, tout ça pour dire que, d'un point de vue historique, nous-mêmes, il a fallu, dans notre propre projet, faire un pivot à 360 très rapide pour dire, OK, finalement, ça va être un outil pour outiller, justement, une plateforme pour outiller les professeurs, mais plus au niveau de l'IA générative que des chatbots comme tels. Alors ça, c'est pour la petite histoire, la petite anecdote, parce que je la trouve drôle. Mais absolument, Yves, c'est l'idée d'une plateforme où, aujourd'hui, pour reprendre l'expression que j'adore de Florence, il faut collaborer et mettre ensemble toutes nos expérimentations avec les différentes IA génératives. En enseignement, là, on s'entend. Mm-hmm. Donc, à quelque niveau que ce soit, il faut qu'on partage nos essais et erreurs. Et c'est avec ce partage-là qu'on va vraiment gagner en vitesse sur, je dirais, entre guillemets, la machine. Pas parce qu'on va aller plus vite qu'elle, ça c'est impossible, mais en vitesse sur prévenir ce qu'elle pourrait avoir comme dommage. Parce que finalement, c'est comme ça qu'on va se l'approprier et l'apprivoiser le plus rapidement possible pour dire « Oups, stop, ici ça va être dangereux ». Dans ce cas-là, pour l'instant, on est dans les conjectures du danger, mais concrètement, on n'a encore pas vraiment totalement toujours tout le monde frappé le petit mur très, très, très important qui va être justement éléments, des éléments comme éventuellement selon les gens qui sont réfractaires. Là, je ne vous dis pas que c'est ce que je pense, pas du tout. Je ne cherche pas à imposer des idées ici, mais l'aspect de justement perdre la connaissance, parce que finalement, elle vient de sources qui nous rendent paresseux. Ce genre de commentaires-là qu'on entend à propos de l'IA, n'est-ce pas? Et on a vu qu'avec la calculette scientifique, ce n'est pas ça qui est arrivé, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres écueils rattachés à l'IA qui seront justement peut-être à un autre niveau, c'est-à-dire l'incapacité parfois de penser par soi-même, c'est-à-dire de perdre cette capacité de recul critique.
Donc, on parle d'agentivité beaucoup. Alors, voilà, c'est ça. Pouvoir d'intervenir et de donner les limites et imposer tes limites et peut-être aussi d'utiliser l'outil, parce qu'on le voit, c'est tellement un outil nouveau, d'utiliser l'outil de façon comme assistant, qu'elle puisse te challenger, que tu puisses lui demander d'agir en tant que tuteur avant toi, de ne pas me donner les réponses, mais de me questionner pour que je trouve moi-même la réponse. Donc, il y a toutes sortes de façons d'utiliser cet outil-là qui est très puissante pour mieux apprendre.
Voilà, tout à fait, absolument. Et ça, c'est renverser finalement ce rapport de force, où au lieu d'être écrasé, entre guillemets, par la machine, au contraire, on capitalise sur sa force, mais en conservant notre force d'intelligence. Oui, et ça aussi, c'était clair quand j'ai fait faire le travail à mes étudiants. Donc, ils avaient l'obligation d'utiliser parmi leurs sources ChatGPT et de rapporter. Mais moi, je le voyais dans les conversations. C'est-à-dire, plus les questions étaient simples, plus les réponses étaient simples.
Oui, c'est ça.
Parce que, évidemment, l'IA s'adapte à votre niveau
garbage
de question.
Garbage in, garbage out. Le principe reste le même.
Exactement.
Donc, c'était frappant de voir ceux qui arrivaient déjà avec un bagage, comment eux se faisaient plus aider. Et ça aussi, en quelque part, on voit que l'outil, notamment, comme on l'a vu avec la technologie, n'éliminera jamais tout ce côté socio-culturel du facteur socio-économique de la connaissance au départ. Donc, vous arrivez plus avancé, vous allez juste avancer encore plus vite. Ça, c'est comme la banque ne vous prête de l'argent que si vous en avez en termes concrets, pas quand vous n'en avez pas. Là. Donc, c'est un peu la même chose.
Un petit côté de science de la gestion ici qui ressort.
Cette piste aussi de solutions autour de la collaboration, peut-être les communautés de pratiques, les partages d'expériences, partage des pratiques pédagogiques lors des usages de l'IA, c'est aussi une piste fort intéressante. J'ai eu aussi la même expérience lorsque j'étais au collégial, dans le même appel de projet que toi, avec une petite comité. On a décidé de mettre en place un cours optionnel avec trois disciplines différentes, avec un prof de sociologie, philosophie et informatique. Et tout au départ, je me rappelle des premières discussions, notre souci, c'était, on veut un cours optionnel pour tous. Pas seulement pour les étudiants qui sont en informatique, mais pour l'ensemble des étudiants du collège. Et on veut surtout que ce soit pas juste théorique. On veut que les étudiants expérimentent l'IA. Donc, c'était une idée qui a été lancée en 2019 et on a gagné ces projets-là. Et cet aspect de la transdisciplinarité, ça, à l'époque, tu sais, quand on innove, on ne se rend pas compte qu'on est en train d'innover. Et tout à coup, peut-être, c'est une des pistes qu'on doit peut-être travailler autour de justement, comme tu parles, Florence, de ces espaces de collaboration, peut-être de voir l'IA, les outils de l'IA, de façon pas sectorielle, de façon pas disciplinaire, mais plutôt dans un ensemble des utilisations, des usages qui sont transdisciplinaires et que ça a du sens dans la philo, dans la sociologie, dans les langues, peu importe, et qui, dans cet esprit-là, on forme un citoyen qui a une vue d'ensemble de l'IA, mais dans un ensemble de la société.
J'adore ce que tu dis, Sylvia. C'est comme, tu sais, un soleil qui arrive et... Mais parce qu'en fait, la transdisciplinarité, on en parle. En fait, l'IA, ça va être justement un prétexte à une technologie qui a un prétexte à se dire, hey, mais attends un petit peu là, mais c'est un peu comme un fait social total, c'est intersectionnel tout ça. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler d'IA aujourd'hui. J'avais donné un cours, en fait, j'avais accompagné un cours à l'univers, à l'UQO, sur les biais algorithmiques. j'intervenais en fait en tant qu'anthropologue. Et l'idée, il y a des gens, en fait, des développeurs en IA qui me disent « t'as donné un cours sur les biais algorithmiques ». Mais tu sais, il y a deux choses, en fait. Il y a biais et il y a algorithme. C'est sûr que je ne suis pas une professionnelle du développement algorithmique. Mais en tout cas, il y avait cette notion de biais. Et comment, en fait, on fait le lien entre un problème, en fait, qui partait du cognitif à en venir maintenant à parler, en fait, des biais algorithmiques derrière l'IA. L'IA, on ne peut pas en parler, les développeurs, ou on le voit, les experts en fait, de l'intelligence artificielle qui ont toujours été là et depuis très longtemps, vont en parler, mais dans la technique. Et nous, en tout cas, de notre côté, on va beaucoup parler de pédagogie et comment, en fait, nous, pour transmettre ou accompagner au mieux les étudiants à développer des compétences, on va pouvoir utiliser un outil, l'IA, pour faire mieux que ce qu'on faisait avant et parce que ça nous ouvre des perspectives. Donc, c'est en ça, effectivement, où, tu sais, aussi bien dans ton cours que, tu sais, dans une plateforme comme Literacia ou ailleurs, on va être autour de la table. Et autour de la table, ça va nous permettre, en fin de compte, de pas nécessairement, nous, en tant que pédagogues, s'approprier la pédagogie parce qu'on se rend compte que la littératie didactique, tout ce qu'on veut mettre derrière, c'est un processus d'apprentissage. Comment on va faire en sorte que les gens puissent s'approprier et adopter quelque chose. Et en ça, on se rend compte que moi qui suis technopédagogue, je vais pouvoir en parler. Mais ici, Sandrine, qui est enseignante, professeure à l'université dans le marketing, elle va pouvoir en parler aussi. Qu'un sociologue peut en parler, qu'un philosophe. Et en fait, l'IA, il y a plusieurs facettes. Il y a l'éthique. On en parle aussi, mais il y a aussi le côté technique, mais il y a le côté aussi de comment cette technologie va nous faire évoluer, nous, dans notre construction de la connaissance. Parce que la connaissance, elle est en perpétuelle continuation. Et comment on va pouvoir, ensemble, autour de la table, travailler sur ce problème. Donc, il y a des étudiants aussi qui ont... Et là, la perspective des étudiants, elle est super importante. C'est pour ça qu'aujourd'hui... On parle de Literacia sur une plateforme où effectivement on va inviter des enseignants, des praticiens, etc. Je me posais même la question de me dire, mais même par rapport à la veille que je fais en fait à Éductive, mais en fin de compte, on peut pas parler de pédagogie, d'intelligence artificielle en enseignement sans inviter les étudiants. Donc la question, elle est aussi, et elle est d'autant plus importante, de mettre les étudiants aussi autour de la table. Parce qu'il y a des choses qu'on apprend d'eux dans la perception qu'ils ont aussi de cette technologie. Ils ont grandi, ou du moins ils grandissent, en tout cas ça me rend vieille, mais malheureusement c'est comme ça. Les étudiants qu'on a aujourd'hui, alors même de tout âge, ça va quand même être des étudiants, alors vous me corrigerez peut-être, mais dans la masse, qui ont grandi avec la technologie ou les technologies numériques. Moi, à mon époque, on avait le 3615, le petit outil. J'ai même montré à mon fils là, ses vacances.
T'étais en Europe, là.
J'étais en Europe. Je pense qu'il y avait quelque chose, non, d'une corrélation ici.
Alexa, bon, ça s'appelait Alexa, la technologie. Ça avait été poussé par Bell. C'était le Minitel québécois qui n'a jamais...
Ça n'a pas décollé. Moi, je faisais mes commandes en ligne avec le 3615, la Redoute. Et quand j'ai montré le Minitel, mon fils m'a dit, mais c'est quoi ça? Je lui ai dit, c'est un Minitel, il hallucinait. Il disait, mais tu viens d'une période de dinosaures, tu devrais avoir des cheveux plus blancs, etc. Mais il faut se rendre compte, en fait, que nous, on a, je dirais, cette chance d'avoir traversé, en fait, les époques et de comprendre et de voir venir parce qu'on a eu la chance de développer un esprit critique du sang, puis de venir apporter tout cet esprit critique et cet empirisme dans l'émergence de cette technologie. Mais pour certains étudiants, ça a toujours été là. Je ne parle même pas des générations qu'on appelle les générations alpha. Eux, ils avaient la tablette. Alors, c'est tout de suite les plus jeunes qu'on voit, ils vont aller devant un écran, puis ils vont aller taper, en fait, sur l'écran pour voir s'il y a une interaction. Donc, c'est sûr que dans cette perspective de collaboration, je pense qu'on ne peut pas faire sans l'invitation des étudiants à la table des réflexions. Alors, c'est peut-être osé. Vous allez me dire, mais en tout cas, pour moi, ça paraît...
Tu m'obliges à faire une autre table balado avec des étudiants cette fois-ci. Sandrine, je te voyais prendre des notes, alors... Je pense que tu as quelques réflexions sur ce que Florence vient de dire à ajouter, je pense.
Je trouve ça fascinant ce que tu dis, Florence, parce que c'est vraiment une ère où la co-création, elle est comme imposée. On ne peut plus se retrouver aujourd'hui à l'ère de cette connaissance très abondante, mais à la fois, je dirais, aussi disséminée dans le vrai et le faux. Ouais. Donc, il y a comme une évolution même du paradigme de la connaissance. Ouais. Là, c'est-à-dire qu'autrefois, juste qu'il y ait un livre, en soi, c'était suffisant quasiment comme preuve de crédibilité. Ça avait été imprimé, donc on n'imprime pas n'importe quoi. Enfin, toute cette notion-là est restée. Et aujourd'hui, on ne peut plus penser la connaissance de cette façon-là. Ouais. Alors, on est passé à l'ère des experts, à l'ère où c'était 2.0, tout le monde est expert. Il y a eu aussi cette notion de, justement, mise en commun de
forums,
la connaissance, etc. Donc,
tout l'aspect
collectif de la connaissance, donc tout ce qui est crowdsourcing, n'est-ce pas, pour pardonner le chinois, mais tout ce qui est, c'est difficile de le dire en français, parce que c'est tout ce qui est socio quelque chose, donc financement, connaissance, etc. Alors, dans cette voie-là, je pense qu'aujourd'hui, la notion même de ce qu'est la connaissance, et donc, pour rejoindre ton point, l'acquisition de connaissances, est à recréer, mais ensemble. Ça ne peut plus vraiment le paradigme professeur, magistral et étudiant récepteur, je dirais, qui gobe, ça c'est vraiment, on le sait depuis longtemps hein, que c'est dépassé là, je veux dire, je ne veux pas dire à des gens pédagogiques que c'est ça la mode, là. Vous savez mieux que moi que c'est plus du tout cette façon-là d'enseigner qui est perçue comme étant la bonne. Ceci dit, elle demeure valide et je veux dire, elle existe encore de façon assez dominante, mais ça reste que je crois qu'il va falloir absolument se réapproprier ces nouvelles façons d'apprendre. Et justement, moi, cet exercice que j'ai fait avec mes étudiants, quand je leur montrais, donc dans la correction, ils perdaient des points plus ils utilisaient des bouts tels quels. Donc, s'ils utilisaient les idées, là, ils gagnaient des points. Mais s'ils utilisaient le texte comme tel qui avait été fourni, là, ils perdaient des points. Donc, c'était pour leur montrer la différence entre je copie, je colle versus je m'approprie l'idée et je fais un tour de roue avec l'idée. Il y avait aussi le nombre de sources. Donc, lorsqu'ils avaient moins de sources, ils perdaient en points que lorsqu'ils en avaient plus. Et vous dites bien qu'en plus, la diversité des sources était importante. Donc, ce genre d'éléments-là. Mmh. Et cette idée m'est venue d'avoir écouté un jour le président de l'OCDE, qui, je pense, en 2023 ou 2022, c'est tout récent, avait dit que autant au 20e siècle, on n'avait peut-être pas tant besoin de pouvoir identifier la véracité d'une source. Ouais. Autant au 21e siècle,
ah oui, là,
c'est devenu une compétence absolument incontournable.
Mmh.
Et il disait, quel que soit qu'on parle de numérique, d'IA ou de quoi que ce soit, aujourd'hui, la responsabilité que toute forme d'éducation de tout pays devrait comprendre dans le sens de inclure, c'est l'identification de la source comme étant valide ou invalide.
Ouais. Moi, ce qui me fait peur par rapport aux étudiants, c'est que, en fait, il y a une anthropomorphisation, comme un anthropologue, tu le prononces sûrement mieux que moi.
C'est très bien.
C'est-à-dire que l'étudiant, le soir, la veille de la remise d'un examen, qui est son ami dans la chambre avec lui à 11 heures le soir, une heure avant de livrer, c'est ChatGPT, ça devient son ami. Il y a un rapport affectif là, qui s'établit. Non seulement on approprie l'IA à une entité humaine puisqu'elle s'exprime de façon fluide, cohérente, on livre notre vie à une entité qu'on pense humaine, qui n'est pas humaine, qui n'est pas une intelligence comme la nôtre, mais qui récolte des données absolument incroyables sur nous, qui s'en va sur des plateformes qui ne nous appartiennent pas, qui sont contrôlées par d'autres personnes. Et là, on perd la perspective que, en fait, ce n'est que des mots alignés un derrière l'autre, que ce sont probablement des fabulations, une entité qui parle au jeu alors qu'elle n'a pas de conscience. Mais ce danger-là, par rapport aux étudiants, moi, ça me fait extrêmement peur. Il faut que la littératie commence jeune pour qu'ils puissent avoir ça derrière la tête quand ils s'expriment, ils échangent, ils font une conversation avec une IA, non?
Mais En fait, même la littératie en soi, ça va être, tu sais, de développer une littératie, ça va être, en IA en tout cas, ça va être... J'utilisais un terme tout à l'heure qui est naviguer en eau trouble. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je pense que foncièrement, c'est une littératie aussi qui va être en mouvance. Parce que autant au tout début de ChatGPT, en tout cas de cette IA générative, hein, c'est pour ça qu'on parle d'IA générative, il y a eu ChatGPT qui est arrivé... La plupart des enseignants, en tout cas, même moi, j'étais là à vouloir coincer ChatGPT. Savoir où est-ce qu'il faisait des erreurs, est-ce que si je faisais ça, j'essaie d'intégrer des choses de l'histoire, de savoir comment ça se passait tout ça. Et puis petit à petit, il y a eu des nouvelles versions. Puis ça s'est adapté de mieux en mieux parce que forcément, on s'est tous mis à l'utiliser. Donc ça a alimenté aussi la base de données. Et puis aussi, il y avait cette question de oui, mais ChatGPT va fabuler, donc ça va être quoi les ressources ? Donc maintenant, ça a imbriqué maintenant dans. Ça passait par Bing, par le moteur de recherche Bing. Mais maintenant, dans les versions. La nouvelle version de ChatGPT, il va dire « Ah, attendez, je vais aller vérifier dans tel ou tel moteur de recherche. » Donc forcément, il va vérifier sur Bing, hein, parce qu'il y a un bis-bis avec Microsoft et OpenAI, mais il va aller vérifier, puis aller donner des sources, puis ensuite, après, ce sera la personne d'aller vérifier si c'est des bonnes sources, des bonnes références. Il s'avère qu'il y a quelques... Il y a 6-7 mois, ce n'était pas possible, et ChatGPT, l'outil, crée des références. Moi, ça m'est arrivé, c'était surprenant. Je me disais, oh là là, mais... Et il créait, c'était créé de toutes pièces. Maintenant, il y a une évolution de la machine qui a fait que c'est pas créé de toutes pièces. Il y a quelque chose derrière, etc. Donc, ça veut dire que c'est toujours une technologie qui est en développement perpétuel. Et il y a cette question aussi, parce qu'on parle d'IA générative, mais on parle de General AI, donc l'IA, l'intelligence artificielle généralisée, qui va se permettre aussi par le développement, l'analyse des bases de données, mais en elle-même, l'IA elle-même, va commencer à analyser, faire ses propres déductions logiques. Et il y a quelque chose qui est intéressant, mais pour dépasser un peu le côté littératie de l'IA, je suis fan de science-fiction, de Marvel, etc. Je me suis lancée aussi dans, et de part en fait des propositions de l'OCDE et de l'UNESCO, dans la littératie des futurs. Comment en fait on va aller réfléchir à des choses complètement dépassées pour pouvoir appréhender en fait ce qui peut s'en venir et créer des scénarios. Et dans un des articles là de blog que j'ai écrit, je parlais des jumeaux numériques. Mais je suis partie loin dans la réflexion du jumeau numérique pour savoir aussi comment l'IA peut être intégrée, parce qu'on s'en va là. Dans tout ce qui est Internet des objets, il y a toute cette pensée, cette notion. On est quand même dans un monde capitaliste avec, il y a des choses qu'il faut qu'ils avancent, il y a des produits qui doivent sortir, où il y a l'intégration en fait de technologies qui vont elles-mêmes faire partie intégrante de nous-mêmes. C'est ça, dans le medtech, on parlait de fintech tout à l'heure avec Sandrine, mais dans le medtech, quand on parle de transhumanisme, quand on parle, les pacemakers, ils ont existé depuis longtemps, ben, ça va évoluer aussi. Et puis, ce sera aussi des objets qui vont être connectés, qui vont récolter nos données, en fait, physiques, mais aussi mentales, et aussi notre façon aussi d'interagir avec les autres. Donc, si on va un petit peu plus loin et on essaie de pousser cette technologie dans un futur qui n'existe pas, on voit que ça arrive, justement, Yves, ce côté de collecte des données. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on est protégé ? Alors là, je pense que la prédiction en 2024, c'est vraiment de se poser aussi sur, je pense qu'il y a quelque chose sur les droits d'auteur, est-ce que je peux citer mon IA générative, etc. Mais cette collecte des données, veut ou veut pas, on est comme aspiré dans un tourbillon.
C'est un aspirateur.
Un aspirateur, c'est ça.
Un aspirateur de données.
Un aspirateur de données. Mais pour certains étudiants, ce n'est pas un problème parce qu'ils y sont déjà depuis. Tout le monde partage tout sur les réseaux sociaux, etc. Donc, cette notion aussi que c'est quoi aussi des données ? Ça fait partie aussi de la littératie de l'IA, de savoir ce que c'est que quand tu vas aller donner des informations. Je vois qu'il y a des GPT financiers. Ou maintenant, dans le magasin de GPTs, on peut avoir un GPT financier, puis on va lui mettre, écoute, vas-y, planifie mon plan de retraite. Mmh. Puis là, on va aller mettre nos fiches de paye, on va aller mettre plein d'informations dedans, en se disant, c'est pour moi, en fait. Ça va me permettre de faire mon plan de retraite. Il y a une machine, là, en même pas 2 minutes, qui va me sortir tout le plan et que je vais pouvoir appliquer pour ma retraite. Mais en soi, est-ce que la personne derrière sait que ce qu'elle va pousser en fait dans la machine en termes de données, ça peut être préjudiciable plus tard. Ça, on ne le sait pas. Et c'est en ça où, dans cette littératie, aussi dans la collaboration qu'on a, c'est avoir en fait ces notions, des fois auxquelles on ne pense pas du tout, de se dire « Ah, mais il peut y avoir l'enjeu des données. C'est quoi l'enjeu des données? Comment on peut travailler sur cet enjeu? Mais comment aussi on peut mieux nous préparer ensemble à confronter le problème ?» Mais en même temps, s'il n'y a pas de données, moi, si je pars aussi, tout à l'heure, je parlais des biais, mais aussi la question de la représentativité. Parce que s'il y avait plus de personnes venues des minorités qui permettaient aussi à l'outil de s'alimenter comme il fallait, peut-être que ça pourrait aussi le bonifier. Donc en même temps, on est un peu entre les deux. On est coincé parce qu'on ne veut pas trop en donner, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Mais en même temps, il faut en donner parce qu'il faut aussi que ce soit une technologie qui soit plus équitable, égalitaire et diverse. Donc, on est un peu entre deux étaux.
Yves, est-ce que vous me permettez, je voudrais préciser que, donc, je ne l'ai pas dit tantôt, mais je trouve que c'est important, quand j'ai mentionné donc, la demande de subvention que nous avons faite pour literacia.ca, oui. J'ai dit « nous », mais j'ai oublié donc, de nommer d'abord mon collègue Bruno Santerre au Collège Bois de Boulogne, mm-hmm. vu que c'est un projet interordre, je trouvais oui, important absolument. De le souligner parce qu'on est tous exposés au même ennemi, entre guillemets, ou au même allié. Donc, en enseignement supérieur, la différence ici face à l'IA entre cégep et université n'est plus valide. Alors, ça serait dommage de ne pas allier nos forces. Et aussi, donc, les partenaires qui, dès le début, Éductive, Jacob, et bien entendu, nos institutions respectives, Collège Bois de Boulogne et l'UQAM, ont été derrière ce projet. Donc, je tenais à le dire pour que tout le monde soit remercié, nommé, que ça ne donne pas l'impression de m'approprier le projet à moi seule. Donc, les collègues de l'équipe aussi, donc Pierre, Florence, je l'ai mentionné, puis plus récemment, un étudiant à nous qui s'appelle Eman. Donc je voulais le dire.
Justin aussi le
et
titre.
Justin, oui, mais oui, excusez-moi, et Justin, qui, oui, étudiant de Cégep et Eman qui était étudiant de maîtrise ici à l'ESJUQAM. En marketing.
Ah oui, c'est important d'inclure les étudiants, n'est-ce pas?
Très important.
On va les inclure la prochaine fois.
Ont participé à cette conversation Sandrine Promtep, professeure agrégée au département de marketing à l'École des sciences de la gestion à l'UQAM, Florence Sedaminou Muratet, conseillère pédagogique et anthropologue pour Éductive Collecto, Sirleia Rosa, chargée de projet technopédagogique à l'École des sciences de la gestion, et Yves Mon, chargée de projet technopédagogique au Carrefour de l'UQAM. Musique par Copain Cop. Montage par Karl Aksinchak. Réalisation de Yves Mon. Ne manquez pas la conclusion de ce balado sur la littératie de l'IA dans le prochain épisode du Collimateur et ses balados.